La Tour aux Belles de Marie de Lépinay, chapitre 1er. Ceux qui ont parcouru il y a une vingtaine d'années la forêt de Rambouillet se rappelleront peut-être d'y avoir vu au plus épais du bois un monticule dénudé d'arbres, gazonneux, surmonté d'une vieille tour en ruine, à laquelle attenaient des restes de constructions rurales, de date bien plus récente que la construction de la tour. Ce vieil édifice se nommait la Tour aux Belles. À quelle époque, dans quelle vue l'avait-on élevé en un lieu qui, par son isolement, semblait ne devoir être hanté que par les loups? Nul ne le savait de science certaine. Pourquoi ce nom de Tour aux Belles? Même ignorance sur ce point. Seulement les anciens du pays disaient tenir de leurs grands-pères, lesquels le tenaient aussi de leurs ascendants, qu'un puissant seigneur des temps passés, possédé du malin esprit, avait fait bâtir la tour pour y enfermer les jeunes filles, ses vassales, qui résistaient à ses séductions. Or, comme il était supposable que le seigneur eût le goût bon, on n'hésitait pas à proclamer belles les victimes du don Juan d'alors, de là le nom de la tour. Nous dirons à l'honneur du pays de Hurepoix que la sagesse des filles n'y chômait point, s'il faut en juger sur la dimension donnée au lieu qui leur servait de prison. Très large et très élevée, la tour, depuis sa base jusqu'à sa plateforme, contenait dans ses flancs épais 5 étages distribués en chambrettes, dans lesquelles des meurtrières grillées laissaient à peine entrer un rayon de jour. En historien fidèle, nous ajouterons que tout l'aspect du vieux donjon justifiait au-delà la fantastique renommée qu'on lui attribuait. Aussi, sans vouloir discuter en rien sur le plus ou moins de vraisemblance de sa biographie, nous adresserons à ses chroniqueurs le proverbe italien bien connu « Se non vero, e ben trovato ». À l'époque où commence ce récit, la Tour aux Belles avait déjà et depuis longtemps perdu sa fière attitude de bastille impénétrable. Le temps, ce grand défaiseur des choses humaines, lui avait enlevé sa couronne crénelée, jeté sur le sol, une à une, les pierres de ses hautes murailles, effondré ses plafonds, pourri ses solives et ses poutres massives. Là où de beaux yeux avaient sans doute versé bien des larmes, là où de belles mains jointes devaient avoir imploré la protectrice des chastes cœurs, les hiboux, les corbeaux et autres oiseaux de mauvais augure avaient élu domicile comme pour perpétuer, par leurs cris funèbres, les gémissements des innocentes captives. Le rez-de-chaussée de la tour et son premier étage étaient pourtant restés debout. Des réparations successives leur conservaient encore une apparence imposante que le ravage des années n'avait point eu le pouvoir de détruire. Puis la nature prêtant son aide à la main des hommes, grâce aux lianes, aux pampres, aux lierres, qui s'élançant des décombres, recouvraient comme d'un voile de verdure toutes les parties en démolition, la tour aux Belles pouvait encore offrir un asile désirable aux poètes ou aux philosophes. Ce n'était cependant ni l'un ni l'autre de ces rêveurs en titre que la tour avait pour habitant. Un simple garde-chasse du roi Louis XVI était l'hôte de ces lieux agrestes. Germain sans peur, comme on le surnommait à la grande vénerie, avait choisi ce poste que son éloignement de toute habitation rendait un des plus périlleux de la forêt, à cause du braconnage et de la maraude du bois vert. 2 gardes précédents y avaient été blessés mortellement. Germain réclama leur succession, assurant que nul n'oserait porter la main sur lui. Ce ne fut pas, nous sommes forcés de le dire, sans de vives altercations dans son ménage que le brave garde s'installa à la tour aux Belles. Sa femme Simone, beaucoup moins intrépide que lui, reculait d'effroi rien qu'à entendre prononcer le nom du vieux donjon, car en dehors des dangers qu'allait courir son mari, elle s'y voyait exposée à d'autres plus mystérieux dont la superstition villageoise dotait la tour. Ce n'était, au dire des environs, que bruit de chaînes, sanglots, apparitions en dedans et en dehors de l'édifice. Le méchant seigneur et les belles y revenaient chaque nuit, ces dernières sous la forme de biches éplorées et gémissantes, leurs persécuteurs les poursuivant sous l'aspect d'un loup furieux ou d'un féroce sanglier. Simone, que la profession du garde laissait souvent seule au logis, allait donc avoir à combattre, loin de tout secours humain, les vivants et les morts. Quoique Germain fût un bon mari, et seulement l'époux de Simone depuis 6 mois, il avait l'esprit entêté et la volonté d'être le maître. Il commença par railler sa femme sur ses craintes, puis finissant par se fâcher, avec cette puissance que donne la barbe, il prononça, l'irrévocable, je le veux. Force fut à Simone de se résigner. Ton obstination te portera malheur, disait la pauvre femme, tout en parcourant d'un pas craintif les chambres tristes et obscures de son nouveau domaine. Germain alors prenait Simone par la main et, la menant dans la grande salle du rez-de-chaussée dont il avait fait un arsenal, lui montrait les fusils, les piques, les longs couteaux pendus au mur, puis ses quatre chiens, dont l'échine labourée de cicatrices attestait la valeur. « Oui, tout cela est bon contre les vivants, » disait Simone. « Mais les morts ne s'en soucient guère, » ajoutait-elle plus bas. « Contre cela, tu diras des prières, » répliquait Germain. Simone était pieuse, elle se signait, mais elle soupirait et tremblait. Était-ce vraiment un pressentiment qui avait fait parler Simone, ou bien la Providence voulait-elle la punir de n'avoir point assez compté sur sa divine protection? Toujours est-il que le ménage du garde semble marqué au sceau du malheur dès son entrée à la tour. En 8 années, Simone mit au monde 5 garçons qui ne vécurent jamais au-delà du premier mois de leur naissance. Quoiqu'issus du père et de mère beaux, forts et bien portants, ses enfants étaient chétifs, malingres, étiolés, et il n'était ni remède, ni soins qui pussent les soustraire à leur fatale destinée. « Comment voulez-vous que des chrétiens s'élèvent dans la maison du diable ?» répétaient les dévotes à chaque petite fausse nouvelle, où descendait accompagné de pleurs amers le dernier-né du pauvre ménage. C'était vraiment pitié que de voir ces pauvres gens frappés de la sorte dans leurs plus chères affections. Germain ne soufflait mot, ne se plaignait pas, cherchait à encourager sa femme, mais sa haute taille se courbait, ses longs cheveux noirs blanchissaient, et plus d'un camarade l'avait aperçu de loin, assis au pied d'un arbre solitaire, le front penché dans ses deux mains dans l'attitude d'un profond désespoir. Quant à Simone, ce n'était plus qu'une ombre, et on aurait pu facilement la prendre pour un de ces esprits fréquentant la tour, et qui lui faisait si grand peur, car on ne pouvait se le dissimuler en dépit de l'arsenal de son mari et du plaisir que lui avait causé l'acquisition de 2 vaches, de plusieurs poulets d'un âne pour aller chercher son foin. Simone ne pensait qu'à sa peur. De là, sans doute, venaient tous ses malheurs. Sans cesse sur le qui-vive, tremblant au moindre bruit, frissonnant à la chute d'une feuille, au cri d'un oiseau, la pauvre femme se brûlait le sang et retirait la vie à l'être qu'elle portait dans son sein. Cependant, elle ne disait plus à son mari qu'elle avait peur, parce que son mari lui avait dit que s'il quittait la tour aux Belles, on l'accuserait d'être un lâche. Seulement Simone se mourait et ses enfants avec elle. Or, il arriva pourtant que pour la 6e fois, la femme du Germain devint grosse. Cet événement, loin d'apporter joie et consolation dans ce pauvre nid ravagé, ne fit qu'y réveiller toutes les douleurs. « Hélas !» disait Simone, en voyant approcher l'époque de sa délivrance. « Les autres mères ornent leurs layettes de beaux rubans roses ou bleus, moi je n'ai qu'un linceul à préparer. » Elle se prenait à trouver encore quelques larmes dans ses yeux desséchés. En présence de cette extrémité, on engagea Simone à faire un vœu au bienheureux saint Antoine et à se rendre en pèlerinage à une petite chapelle bâtie en son honneur à 4 lieues de la tour aux Belles. Le saint était en grand renom dans le pays pour mettre un terme au mauvais sort. Un jour donc, de grand matin, à l'heure où les oiseaux commencent à gazouiller dans le faîte des arbres, on vit Simone monter sur un âne, sortir de chez elle, triste et morne comme à l'ordinaire. Germain, la tête baissée, le fusil sur l'épaule, marchait devant la bête, afin qu'elle suivît les meilleurs sentiers et ne trabuchât pas sous son précieux fardeau. Ça avait déjà été pour la femme du garde un présage d'heureux augure, quand elle avait vu le bon vouloir de son mari à la conduire lui-même au pèlerinage. Germain, jusqu'à ce jour, n'avait guère montré de ferveur aux saints et saintes du paradis, et il était rare qu'on le vît dans les églises, même le dimanche. « Ah !» pensait Simone, « Dieu a pitié des faibles qui reviennent à lui. Si Germain trouve dans son cœur une bonne prière de repentir, il sera le sauveur de son enfant. » Ce fut aussi pour Simone un grand sujet d'espoir, que d'entendre les propos qu'excitaient sur son passage sa vue et celle de son mari. « Tiens !» criaient les voisins étonnés. « Voilà sans peur qui va en pèlerinage. Allons, ça portera peut-être bonheur à sa digne femme. » Un tressaillement du sein de Simone complétait la pensée des villageoises et mouillait d'attendrissement les paupières de la pauvre mère. Là ne s'arrêtèrent pas pour la femme du garde, pendant cette journée, les consolants avertissements du ciel. Après la dévotion faite à saint Antoine par les deux époux, après avoir comme ex voto attaché à un des bras du saint un petit enfant en cire coiffé d'une fontange dorée, Simone, cédant à la fatigue, s'étendit sous un grand hêtre dont les hautes cimes étendues abritaient des ardeurs du soleil la rustique chapelle et le beau tapis de mousse poussant alentour. La selle de l'âne qu'on avait laissée paître en liberté servit d'oreiller à la voyageuse qui bientôt s'endormit, épuisée qu'elle était par la lassitude du corps et par les élans de sa pauvre âme, dont elle avait avec tant d'ardeur élevé les désirs vers le Seigneur. Pendant ce temps, agenouillé près de sa femme, Germain s'occupait à ce que rien ne vînt troubler son sommeil. Tout à coup, les yeux du garde, fixés sur le visage de Simone, prirent une expression de surprise singulière. C'est qu'en effet, ce visage subissait une étrange transformation. Les traits habituellement tirés et languis redevenaient calmes et joyeux. Les joues pâles se couvraient des nuances de l'églantine, et la bouche, toujours contractée par une pensée chagrine, s'entr'ouvrait en souriant. Enfin, la vie, le bonheur, rayonnait au front, aux tempes de la dormeuse. Germain restait comme fasciné à la vue de ce miracle. Que se passait-il en la personne de sa femme? Que signifiait ce changement subi? Était-ce la mort qui s'annonçait sous ces trompeuses apparences? Le garde ne savait qu'imaginer. Il sentait l'effroi le gagner. C'est alors qu'on aurait pu voir cet homme si stoïque devant le danger, si ferme dans ses résolutions, inflexible quelquefois jusqu'à la rudesse, tourner lentement la tête, plonger son regard sombre et scrutateur dans les profondeurs de ces lieux isolés, puis, sûr de n'avoir point de témoin, faire un grand signe de croix en disant « Mon Dieu, conservez-moi Simone, et je vous promets de ne plus voir qu'il y a des vieilles femmes et des petits-enfants qui l'hiver maraudent dans la forêt du roi. » Quoique ces paroles eussent été prononcées à voix basse, elles arrivèrent pourtant jusqu'aux oreilles de Simone. Ses yeux s'ouvrirent lentement, ils brillaient de plaisir. En apercevant son mari penché vers elle avec inquiétude, elle lui passa affectueusement les bras autour du cou et s'asseyant à l'aide de cet appui. « Le joli rêve que je faisais, » dit-elle. « Il m'a fait peur, ton rêve, » murmura Germain. « C'était pourtant un beau songe. » « Un songe comme on n'en fait sûrement pas deux en sa vie, » répliqua Simone. « Il me semblait être encore dans la chapelle, agenouillé sur les marches de l'autel. Je venais de finir ma prière, quand en relevant la tête, j'aperçois le bienheureux saint Antoine qui soulevait son bras de pierre, juste celui où tu es attaché le petit enfant en cire. Il me faisait signe de regarder la porte. Je me retourne et je vois une biche blanche comme un lys, avec un air si affable, des yeux si doux, que de toutes les belles qui reviennent à leur tour, aucune n'en a jamais eu de pareille. Elle portait sur sa tête une couronne d'or et de diamants, comme celle qui est à la cathédrale de Rambouillet. À mesure que je la regardais, je sentais mon cœur qui se desserrait, ma fièvre qui battait moins fort, et une joie sans égale qui me montait à la tête et se répandait dans tout mon corps. Il y avait pourtant une chose qui me faisait de la peine. La biche portait un collier de velours rouge autour de son cou si mince et si blanc. Je pensais que de méchants chasseurs l'avaient sans doute blessée en la traquant pour lui voler sa couronne. J'allais me lever pour aller à elle et la secourir, car je l'aurais suivie au bout du monde, tant je m'étais mise à l'aimer tout de suite. Mais dans ce moment, le bras de saint Antoine retomba à son côté et j'entendis sortir de ses lèvres une voix qui me disait « Simone, tu as vu la marraine de ton fils. » C'est alors que tes paroles, dont je n'ai pourtant entendu que le son, m'ont réveillé, et me voilà pas plus avancé qu'auparavant, ajouta la pauvre femme avec un profond soupir. Quoique Germain sans peur ne se fût jamais plus préoccupé des songes que des pressentiments, le malheur avait fini par le rendre superstitieux, et le rêve de sa femme le frappant vivement, il lui promit d'y réfléchir en faisant ses tournées. Simone, qui comptait moins que son mari sur ses propres lumières et que sa vision tourmentait de plus en plus, s'en fut quelques jours après son retour, trouver le curé de sa paroisse auquel elle narra de point en point son aventure, lui demandant ce qu'il en pensait. Ce curé, homme tout en Dieu, ne se riait pas de la croyance des âmes simples et naïves. D'ailleurs, connaissant sa Bible mieux que tous les curés à la ronde, il ne trouvait pas étonnant que le Créateur du monde eût fait aujourd'hui pour une pauvre femme des champs ce qu'il avait fait autrefois pour un puissant roi d'Égypte. Et sans vouloir pourtant se mesurer à Saint Joseph, il dit à Simone qu'il voyait clair dans son rêve comme dans son bréviaire. La pauvre femme s'exclama d'aise à cette révélation, mais sa joie se changea bientôt en tristesse quand le pasteur lui eut démontré péremptoirement qu'elle avait reçu du ciel l'avertissement que la reine de France seule, en consentant à nommer son enfant, pouvait conjurer la fatalité attachée à sa jeune famille. « Jésus-Marie !» s'écria Simone en fondant larmes. « Vous pouvez bien alors cantonner votre sixième libéra, monsieur le curé, car s'il faut un pareil honneur pour tirer des mains de la mort le petit qui va venir, il ne me reste qu'à prier ses frères de lui préparer une place auprès d'eux dans le cimetière du village. » Le curé eut beau représenter à Simone que rien n'était impossible à Dieu, que sa vision devait lui donner courage, que la reine Marie-Antoinette était aussi bonne que belle et que les prières, lorsqu'elles étaient sincères, faisaient cheminer des montagnes, la mère désolée rentra chez elle, l'âme bouleversée. Les premiers mots de Germain, lorsqu'il connut les nouvelles alarmes de sa femme, furent que s'il en était des choses ainsi que le pensait monsieur le curé, il les amènerait peut-être à bonne fin. « Hélas, il n'y aura de bonne fin pour moi que la dernière, » dit Simone. « tu verras, » reprenait Germain. « Si tu as fait un vœu, j'en ai fait un aussi, moi. » « Mon terme approche, » disait Simone, « dans 15 jours le petit criera dans ses langes. » C'est plus de temps qu'il n'en faut à un bon chasseur pour forcer 10 cerfs dans les 30 000 arpents de la forêt de Rambouillet, » répliqua fièrement le garde. « Oui, mais ce n'est pas assez pour qu'un chétif comme toi arrive jusqu'à la femme de monseigneur le roi, » répondit Simone.